Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Nous vivons des temps étranges, mais dans lesquels nous avons quelques petits bonheurs. En effet, comme d'autres commerces dits de proximité et non essentiels, quelle curieuse façon d'appréhender le commerce entre les hommes, comme quelque chose de non essentiel. Bon, enfin, nous n'irons pas plus loin dans le commentaire. En tout cas, les librairies, elles sont rouvertes, et ça, c'est pour notre plus grand bonheur de lecteurs et surtout pour nos amis libraires qui retrouvent leurs clients qui sont toujours un petit peu plus que des clients. Alors, eh bien, les temps sont encore un petit peu difficiles, oui, les commerces sont ouverts, mais le confinement, lui, n'est pas tout à fait terminé. Alors, nous avons fait une mission maison, si je puis dire, le studio de Divergence étant fermé, pour cause sanitaire, tiens, ça vous surprend, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons quand même voulu réaliser une émission, un bazar littéraire, comme nous les aimons bien, où chacun de nos collecteurs, de nos lecteurs, qui sont souvent des lectrices d'ailleurs, donc chacun de nos lecteurs-lectrices, lectrices-lecteurs, a envie de partager une lecture qu'il a séduite, qui lui a plu, qui l'a amusé, qui l'a ému, et dont vous pourriez peut-être faire un cadeau à quelqu'un ou à vous-même, à le moment pour ces fêtes de fin d'année, si bizarres, si étranges. Alors, ça a été pour les uns enregistré sur un téléphone, pour d'autres, nous avons eu un échange par téléphone pour que je puisse les enregistrer. Voilà, donc, qualité technique, à la guerre comme à la guerre, au confinement comme au confinement. Allez, nous commençons tout de suite ce partage de lecture. Nous commencerons par une libraire, la librairie que nous avons reçue assez régulièrement dans cette émission, Magali Brieusset de la Géosphère, et qui va nous parler d'un livre jeunesse, puisque les fêtes qui viennent sont, paraît-il, les fêtes des enfants.
Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une bande dessinée pour la jeunesse. C'est une bande dessinée qui s'appelle « Les voyages de Lota », écrite par Marie Zimmer et illustrée par Elena Bia, publiée aux éditions Jungle fin octobre 2020 de cette année. Donc. Les voyages de Lota, ça raconte les aventures d'une petite Laponne d'une dizaine d'années. Elle fait partie du peuple Sami et vit dans une maisonnette au fond des bois avec son père et sa sœur qui est muette. Et au grand dam de son père, Lota passe plus de temps en compagnie du chaman du village qu'à jouer avec les autres enfants. Et en fait, si Lota passe autant de temps avec le chaman, c'est parce qu'elle veut devenir chamane elle aussi. Et pourquoi ? Parce qu'elle veut aider sa sœur à retrouver sa voix. Donc on suit cette petite fille qui a un sacré caractère et une sacrée volonté et qui, au fil des séances de chamanisme, va prendre la forme de différents animaux et apprendre à ne pas se montrer trop impatiente pour enfin aider sa sœur. Donc par moments, elle va devenir un ours, par moments, elle va devenir une créature aquatique. Ce sont des planches magnifiques parce qu'on a des couleurs qui évoquent les aurores boréales, et puis un univers très onirique comme ça, qui évoque un peu les hallucinations qu'on peut avoir pendant des séances de chamanisme. Et c'est une bande dessinée qui est très attractive à tout point de vue. Dès le début, en fait, elle a attiré mon œil parce que j'ai été intriguée par cette couverture où on voit deux sœurs, une brune et une blonde, dans un paysage enneigé. Et je me suis dit, oh non, ils n'ont quand même pas osé faire un remake de ce fameux film qui a eu tant de succès, que je ne citerai pas, mais dont tout le monde sait de quoi je parlais. Mais finalement, ça va beaucoup plus loin que le film de Disney auquel je pense. Parce que vraiment, on découvre une culture. On découvre une culture étrangère, on découvre des rites, on découvre des croyances. Et puis, c'est aussi un parcours initiatique très touchant. Je trouve que c'est une belle réussite, Les voyages de Lota. Je conseille cette BD à partir de 8-10 ans. Et c'est toute une série aux éditions Jungle qui font découvrir les univers de différentes cultures. Là, c'est la culture Sami, mais dans la même collection, on va avoir une héroïne en Nouvelle-Zélande ou une héroïne au fin fond de la Tanzanie. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est une très chouette collection.
C'est d'une autre collection jeunesse, publiée par un éditeur tout proche de Montpellier, puisqu'il est installé à Mirval, que va nous parler Laurence, une de nos collectrices et traductrices par ailleurs.
Bonjour Marc et bonjour à tous. Alors moi, pour ce bazar littéraire de fête, j'ai envie de vous parler de trois albums qui sont parus aux éditions À demi-mot, qui est une jeune maison d'édition basée à Mirval, près de Montpellier, et qui s'est fixée comme objectif de, je cite, « éveiller les curiosités, émerveiller les jeunes lecteurs pour les inviter à connaître et reconnaître le monde qui les entoure ». Voilà, alors là c'est un pari réussi pour les petits, mais aussi clairement pour les grands, avec les trois bestiaires botaniques, dont le dernier en date, « Un pied de mouton dans mon panier », vient de paraître. Donc ces trois albums sont signés Izumi Matei Casalis pour les somptueuses illustrations et Véronique Cauchy pour les textes et en particulier pour les contes. Donc cet album, Un pied de mouton dans mon panier, nous invite à découvrir les pieds de mouton, les amanites tumouches, les têtes de méduse, les vestes de loup, etc. C'est-à-dire les champignons auxquels l'imaginaire collectif a associé des noms d'animaux. Les deux autres albums, le premier... nous propose, le premier s'appelle « Une dent de lion dans mon jardin ». Il nous parle des plantes qui poussent dans nos jardins et au bord de nos chemins, comme la corne de cerf, la queue de lièvre, la dent de lion. Le deuxième album, lui, s'intitule « Des oreilles d'éléphant dans mon jardin » et il nous fait découvrir les plantes tropicales, comme l'œil de paon, la queue de renard, l'orchidée des papillons, etc., les oreilles d'éléphant. Donc l'album est composé de très belles illustrations qui sont comme des planches botaniques d'antan avec des petits détails et puis des indications botaniques, mais qui sont un petit peu agrémentées de magie, puisque les plantes sont personnifiées par les animaux. Voilà, donc c'est vraiment très joli. Et ces belles illustrations forment un beau duo avec les contes de Véronique qui joue beaucoup avec les mots et qui tente d'expliquer le pourquoi de ces noms d'animaux pour ces plantes, voilà, pour ces plantes, ces champignons, etc. Donc, voilà, très joli cadeau pour nos proches, pour les enfants, mais en fait aussi pour les grands et pour soi-même. Les trois titres, Un pied de mouton dans mon panier, pour les champignons, une dent de lion dans mon jardin pour les plantes de nos jardins et de nos chemins, et les oreilles d'éléphant dans mon jardin pour les jardins tropicaux. Izumi Matei Casalis pour les illustrations, Véronique Cauchy pour les textes, les contes, et tout ça c'est aux éditions À demi-mot. Voilà, joyeuse fête à tous.
Merci Laurence. Alors, par les temps qui courent, nous avons bien besoin d'un peu de légèreté, d'un peu de sourire, et pas seulement celui des enfants. D'ailleurs, les enfants ne sourient pas toujours. Parfois, ils pleurent, et ils prennent la vie très au sérieux, et parfois de façon très dramatique. Non, allez, nous allons aller chercher un petit peu de légèreté avec une publication des éditions Flammarion, sur laquelle Françoise va tout nous dire.
J'ai là un petit livre de Patrice Lecomte qui s'appelle « Faites la tête ». Patrice Lecomte, on le connaît plus comme réalisateur de cinéma que comme écrivain, et il semblerait que là, il ait eu besoin ou envie de prendre un petit temps de récréation pour écrire ses petites histoires. C'est un livre par les temps qui courent qui est très léger, très agréable, et qui raconte des histoires que Patrice Lecomte a inventées à partir d'expressions populaires, comme tête de nœud, tête de mule, tête de lit, tête de clou, tête de linotte, etc. Et ce sont des petites histoires qui mettent en scène un personnage, hein, qui incarne l'expression. Par exemple, tête de gondole, c'est quelqu'un qui veut être gondolier, bien entendu. Tête de nœud, il a une tête qui ressemble vraiment à une tête de lit, il veut passer sa vie au lit. Tête de clou, ben il n'a pas un cheveu sur le caillou, etc., etc. C'est très bien écrit. Il crée autour de l'expression tout un univers léger, c'est comme des bulles de savon, c'est extrêmement agréable à lire. C'est en plus un très joli livre qui pourrait très bien faire l'objet d'un cadeau pour les fêtes de Noël qui se profilent à l'horizon. Et ce qu'en dit Patrice Lecomte, c'est que il raconte ses histoires peu banales, avec 8 drôles de têtes, et que c'est pour s'amuser et sans se prendre la tête. Et effectivement, on ne se prend pas la tête, mais on passe un très bon moment.
Voilà une sympathique invitation à ne pas se prendre la tête, mais plutôt à faire la tête tout en faisant la fête aussi, d'une certaine façon. De la fête à la tête, on pourrait sous-titrer cette chronique de Françoise. Merci Françoise. Alors, nous n'en avons pas fini avec nos partages littéraires. Et nous allons revenir avec Magali Brieussel, il faut peut-être rappeler qu'elle tient avec la Géocère une librairie dédiée au voyage. Le voyage qui est quelque chose que l'on peut difficilement faire par les temps qui courent, hélas. Ça va peut-être bientôt revenir. En tout cas, avec les livres, on peut déjà voyager. Première destination que nous propose Magali Brieussel dans cette émission, l'Australie.
J'avais envie de vous emmener en Australie, puisqu'on ne peut plus trop voyager en ce moment. J'avais envie de vous emmener en Australie avec le livre de Pascal Vatinelle qui s'appelle « Le chant des galas », publié cette année aux éditions de l'Aube. Alors, c'est un excellent polar. C'est un polar qui reprend les canons du genre. On a, pour commencer, un jeune inspecteur en tout début de carrière qui va faire ses armes avec une première affaire, une affaire de disparition inquiétante d'aborigènes. Il va être confronté à des mercenaires violents et douteux qui sont censés protéger une équipe de scientifiques, et les scientifiques eux-mêmes ne sont pas forcément au-dessus de tout soupçon. Voilà, c'est vraiment un polar haletant en terre aborigène et au fin fond de l'Australie, une Australie poussiéreuse, une Australie hors piste. Et l'originalité et la grande force de ce polar, c'est justement ce décor où l'auteur a voyagé de nombreuses fois. Et cette originalité aussi, c'est le contexte social de ce polar. Les éditions de l'Aube se présentent comme une maison d'édition engagée, et c'est vraiment le cas, puisque là, le nœud de l'affaire, c'est vraiment les tensions entre les communautés blanches et les communautés aborigènes. Et du coup, on découvre aussi ces questions sociales qui sont très très importante en Australie aujourd'hui. Donc vraiment, si vous avez envie d'évasion, si vous avez envie de suspense, et si vous avez envie d'un petit peu mieux connaître, un petit peu mieux comprendre le monde dans lequel on vit, je vous conseille vivement ce polar, Le Chant des Galas, de Pascal Vatinelle, aux éditions de l'Aube.
Pour ma part, ce n'est pas l'Australie que je vais prendre comme une destination littéraire avec le livre dont je vais vous parler, mais l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud en passant par les Pyrénées. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du dernier roman de Colin Niel, Entre fauves. Colin Niel que l'on connaît notamment pour sa série guyanaise. Alors, qu'est-ce que c'est que Entre fauves ? Entre fauves, c'est une histoire qui commence avec une photo que on découvre sur les réseaux sociaux d'une jeune chasseuse qui a à peine 20 ans et qui a une particularité, c'est qu'elle chasse à l'arc. Alors un des arcs, vous savez, ces arcs de chasse avec des poulies qui sont des armes très très puissantes, et puis qu'elle a chassé un lion. Un lion d'une espèce très protégée, un lion du désert, comme il y en a quelques-uns en Afrique du Sud. Et cette photo a fait beaucoup sensation, a fait le buzz sur certains réseaux sociaux spécialisés, car les animalistes trouvaient qu'elle avait vraiment, les anti-chasses trouvaient que cette chasseresse-là avait un air particulièrement cruel et satisfait d'elle-même. notamment parmi ses antichasses, Martin, qui est un garde dans le parc national des Pyrénées et qui va mener sa propre enquête parce que personne ne réussit à savoir qui est cette chasseuse. Et puis on va la découvrir, le roman va suivre cette enquête et puis on va découvrir qui est cette jeune chasseuse, une jeune fille de 20 ans qui a effectivement été élevée dans le monde de la chasse, qui s'appelle Apolline. On aurait pu s'appeler Diane, non, elle s'appelle Apolline. Et bah, ce pauvre lion qu'elle a tué, c'est au cours d'un safari spécial que lui a offert son père, car il a sauté sur l'occasion les gardes d'un parc d'Afrique du Sud, ayant décidé d'abattre, d'ouvrir une autorisation d'abattage, payé très cher par les touristes qui sont intéressés, de ce lion qui a dévasté plusieurs troupeaux de paysans. Alors on est dans un monde qui n'est pas du tout naïf, on est en pleine nature bien entendu, mais ce n'est pas un monde simple. Qui est chasseur, qui est chassé, bah, si vous lisez le livre, vous verrez que ce n'est pas toujours si clair. Il n'y a pas que de la cause animale, il y a aussi des humains qui vivent là-bas et qui sont victimes d'un prédateur très puissant, même s'ils l'admirent. Donc le tuer, c'est aussi rendre service à ses éleveurs, dont les troupeaux sont régulièrement décimés. Et le livre échappe, le récit en tout cas de Colin Niel, échappe au réductionnisme, au simplisme anti-chasse, anti-pro-nature, vegan, que sais-je, en montrant que tout ça est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et que la chasseresse, oui, elle chasse, mais bon, elle n'est pas la seule. Et puis, alors, elle ne chasse pas parce qu'elle en vit, c'est sûr. Mais elle va se retrouver à remplir une mission, une espèce de mission sacrée. Mais elle sera en concurrence. Elle sera en concurrence avec des autochtones, notamment avec un jeune homme sud-africain dont le troupeau a été décimé par le lion, a été détruit par le lion, même plus que décimé, mais carrément détruit. Et puis, il n'est pas chasseur, lui, il n'est pas guerrier, mais il se fait la promesse de venir à bout de ce lion terrible. Et alors, on va suivre, on a un récit qui nous fait suivre les propos de tous ces personnages. Alors, les personnages principaux, on va avoir Martin, le gardien du parc, qui va chasser la chasseresse. On a la chasseresse elle-même, on a le lion, et on a le jeune sud-africain, le jeune paysan sud-africain de l'ethnie Himba qui va essayer de tirer son épingle du jeu aussi. Voilà, un très beau roman, prenant, on est emporté. On ira aussi dans le parc des Pyrénées avec les ours. On aura d'ailleurs, ce sera un des derniers ours des Pyrénées sera un des personnages du roman. Je ne vous explique pas pourquoi, je vous laisse découvrir. Un roman que l'on dévore et qui est comme le lion pourrait dévorer ses victimes, mais qui n'est tout sauf simpliste et qui nous amène aussi à réfléchir de ce qu'il en est, de notre rapport à la nature, à la vie, à la mort, et ainsi de suite. Ce n'est pas dans le temps de Noël, encore que, pourquoi pas. Donc, Entre fauves de Colin Niel, et c'est paru aux éditions du Rouergue. Le livre avait été sélectionné pour le prix Joseph, mais le prix a été finalement attribué à Fabrice Caro pour Broadway. Après l'Australie et l'Afrique du Sud, nous retrouvons Magali Bruyssel pour un dernier voyage au bout du monde, si l'on peut dire, et cette fois nous mettons le cap sur l'Amazonie.
Il s'agit d'un livre qui s'intitule tout simplement Amazonie, écrit par Elliot Schoenfeld et publié aux éditions Payot cette année. J'ai particulièrement envie d'en parler parce que ce livre n'a pas eu beaucoup d'existence en librairie physique puisqu'il est paru au mois d'octobre. Et en plus, c'est le premier récit d'un jeune auteur et d'un jeune aventurier assez prometteur. Et du coup, je suis pas sûre qu'il va rencontrer l'écho qu'il mérite. Donc, j'ai vraiment envie d'en parler et de le défendre. Amazonie, c'est le récit d'un dépassement de soi. C'est un récit de pugnacité. C'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui décide d'aller jusqu'au bout d'un rêve. Alors, Elliot Schoenfeld, il a 27 ans. C'est le plus jeune membre de la Société des explorateurs français. Il a déjà beaucoup bourlingué. Il est allé en Alaska. Il a traversé le désert de Gobi. Tout ça en solitaire. Et son dernier rêve en date, c'était de partir sur les traces de Raymond Maufret en Guyane française. Alors Raymond Maufret, je ne sais pas si ça vous parle, si ça parle à nos auditeurs. Pour rappeler qui c'était un aventurier qui a disparu dans les années 50, alors qu'il était parti tout seul pour tenter de découvrir des Indiens au fin fond de l'Amazonie de Guyane française. Des Indiens mythiques qui, selon la légende, seraient parfaitement blonds. Et donc, Raymond Maufret est parti et on ne l'a jamais retrouvé. On a simplement retrouvé son carnet de voyage qui a été ramassé par un Indien et confié de fil en aiguille à la famille de Raymond Maufret. Et donc, Elliot Schoenfeld s'empare de cette histoire assez marquante, qui a d'ailleurs valu un livre déjà de la part du père de Raymond Maufret, qui était parti sur les traces de son fils pendant des années, en vain lui aussi. Et Elliot Schoenfeld, il part tout seul, comme son inspirateur. Comme son inspirateur, il part sans préparation particulière, ni connaissance préalable du terrain. Alors bon, il a un téléphone satellitaire, mais comme chacun sait, les batteries d'un téléphone ne sont pas éternelles. Et puis, c'est un objet qui ne peut rien contre les bêtes dangereuses, contre les araignées, contre la faim, contre la peur de mourir aussi. Et tout ça, Elliot Schoenfeld le raconte très très bien dans son récit. C'est une aventure vraiment hors du commun, un récit qui prend aux tripes puisqu'il part d'abord en pirogue, ensuite il est à pied et enfin il construit un radeau avec un petit opinel de rien du tout. Enfin vraiment, on est dans des conditions absolument extrêmes et on peut pas s'empêcher de se dire en fait que cet Elliot Schoenfeld, il est un petit peu fou quand même, un petit peu inconscient, parce qu'il part dans une jungle amazonienne qui est semé d'embûches et de dangers. Le danger vient de partout. Hein. Les animaux sauvages sont dans l'eau, sur la terre, dans les arbres. Et puis, ils peuvent être aussi bien très gros comme des serpents que microscopiques comme de vilaines bactéries qui peuvent vous faire tomber malade. Donc, Elliot Schoenfeld raconte tout ça dans un récit assez court, très palpitant. J'ai trouvé ça vraiment palpitant, comme un roman d'aventure ou un polar, parce qu'on se demande vraiment s'il va s'en sortir. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est la force de caractère qui s'en dégage, parce que quand même, il arrive à tenir le coup, il va arriver jusqu'au bout de son aventure, et ça force l'admiration. Ça s'appelle Amazonie, l'auteur s'appelle Elliot Schoenfeld, il a même une page internet qui raconte ses précédents voyages, et puis qui montre en photo ce voyage-là en particulier, et ça a été publié aux éditions Payot en 2020.
En cette période de fête, vous pourriez être tenté d'offrir des gros livres ou des beaux livres. Vous savez, ces beaux livres que certains libraires sortent tout spécialement pour les fêtes. Certains libraires, même quasiment tous les libraires le font, puisque c'est des cadeaux que l'on offre, des livres que l'on offre, livres d'art, livres pleins d'images, des beaux livres. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant les petits livres, car il y a des petits livres tout modestes, qui ne tapent pas à l'œil et qui pourtant peuvent se révéler très 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 attachants. C'est d'un de ces petits livres, comme celle est fabriquée la Contre-Allée, l'éditeur que nous aimons bien dans notre émission, dont va nous parler maintenant Françoise.
J'ai là un petit livre dont je n'arrive pas à me défaire là depuis que j'en ai terminé la lecture. Ce petit livre, c'est Fresh Kills de Lucie Taïeb. C'est un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps à la Contre-Allée. Qu'est-ce que c'est que ce petit livre? C'est un récit, mais un récit particulier. Ça raconte l'histoire d'un lieu, Fresh Kills. C'est sur Staten Island, près de Manhattan, à New York. Ça parle du devenir de ce lieu. C'est aussi une réflexion sur ce que le devenir de ce lieu dit de nous, de notre rapport à la mémoire. Ce lieu, qui a été au départ un lieu naturel, C'est devenu la plus grande décharge à ciel ouvert au monde. Et puis cette décharge, elle a été fermée. On a enfoui les déchets. Et on est en train d'y construire, d'y réaliser un parc de loisirs. C'est comme si la nature qui avait été détruite, elle pouvait redevenir nature. Mais ça reste un lieu artificiel. Donc Lucie Taïeb, elle réfléchit là-dessus. Et elle nous fait réfléchir avec elle. C'est aussi une réflexion sur notre rapport aux déchets, ce que nous ne voulons pas voir, ce qu'on met à la périphérie pour que justement on ne le voit pas, ce qu'on enfouit. Donc c'est comme une exploration de territoire de mémoire. C'est un livre passionnant, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, l'écriture est limpide, c'est vraiment prégnant. C'est un livre que je vous recommande et dont on ne sort pas indemne. Mais c'est souvent comme ça avec la contre-allée.
Il me reste quelques minutes et je vais terminer cette émission en vous parlant d'un auteur que j'affectionne particulièrement et qui est passé maître dans la littérature du merveilleux, de la fantaisie, du rêve, tout ce que vous voudrez. C'est un auteur estonien qui s'appelle Andrus Kivirak. Je vous ne garantis pas la prononciation. Alors, peut-être vous avez déjà entendu parler de cet auteur qui était édité par les éditions Le Tripode, avec des titres qu'on n'oublie pas. Le premier qui avait été publié s'appelait « L'homme qui savait la langue des serpents ». Et puis, un petit peu plus tard, on a eu droit à « Les groseilles de novembre », avec un sous-titre « Chronique de quelques détraquements dans la contrée des crates ». Que sont les crates? Mystère, mystère. Et puis le troisième, qui est en fait était le premier roman qu'il avait écrit, il en a écrit une quarantaine à peu près, qui s'appelle « Le papillon ». Et le Tripode vient de publier, il y a quelques semaines de cela, un autre livre d'Andrus Kivirak, toujours aussi atypique, inclassable que les précédents, qui s'appelle « Les secrets ». Alors, Les Secrets, c'est un livre qui parle de rêves, qui ont du mal à trouver les frontières avec la réalité. Les Secrets, c'est un livre qui pourrait s'adresser aux enfants, ça pourrait presque être un livre jeunesse. D'ailleurs, il est illustré avec des illustrations de Clara Oduro, qui me font penser... Je venais de lire un livre de Karel Čapek, un auteur tchèque, La fabrique de l'absolu, c'est pareil, Karel Čapek avait son frère qui lui faisait des illustrations, et on retrouve un peu cet esprit. Mais je vous parlerai de Karel Čapek une autre fois. Revenons à Andrus Kivirak et à Les Secrets. Eh bien, Les Secrets, c'est l'histoire d'une famille, ils sont quatre dans la famille, le père, la mère, dont on ne sait pas les noms, et les enfants, un garçon et une fille, l'aîné, c'est la fille. Et puis le garçon, lui, est tout jeune. La fille s'appelle Sirli et le garçon s'appelle Sim, avec deux i. Alors, qu'ont de particulier tous ces personnages? Eh bien, c'est qu'ils ont tous accès à leur part de rêve. Et d'autres personnages qui les entourent aussi. Et pour aller dans leurs rêves, non, ils ne s'endorment pas. Ce n'est pas comme ça qu'ils y vont. Ils ont des passages secrets et mystérieux et ils se retrouvent dans le monde de leurs rêves. Le père sort de sa voiture par la porte arrière, c'est une 5 portes, voilà, et il arrive dans son monde de rêve. Le garçon va s'endormir sous son lit et là, à travers le parquet, à travers le fond du parquet, hop, il passe dans le monde de ses rêves. La petite fille... C'est l'ascenseur qu'elle prend. Elle prend l'ascenseur de l'immeuble dans lequel ils vivent et l'ascenseur ne s'arrête pas. Il monte jusqu'au ciel où elle se retrouve au milieu des nuages dans son monde à elle. Mais ces mondes-là, tout imaginaires ou pleins de rêves, sont quand même assez réels. Quand la petite sœur prend l'ascenseur, le vieux monsieur qui veut prendre l'ascenseur ne peut pas. Il n'y a plus d'ascenseur. L'ascenseur a disparu. Et on va avoir des mélanges comme ça entre ces rêves qui produisent des choses bien réelles dans la réalité et la frontière entre les deux si difficile à trouver et si facile à franchir. un livre magnifique, plein de fantaisie, que je vous encourage à découvrir et qui, lui, est bien de saison. Voilà, entre autres, vous découvrirez un concierge qui sort chaque fois de sa loge de concierge. Il est trempé. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans son rêve à l'intérieur de sa loge, au fond de l'océan. Rien que ça. Les secrets. Andrus Kivirak, c'est aux éditions Le Tripode. Et merci à Jean-Pierre Minaudier qui a traduit ce nouveau titre d'Andrus Kivirak pour nous. Vous retrouverez toutes les références des livres dont nous avons parlé sur la page de l'émission sur le site de la radio. Et on vous souhaite de bonnes fêtes si nous ne vous retrouvons pas avant qu'elles se déroulent. À très bientôt. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.